Bonsoir. L'exposé de ce soir a comme titre, plus restreint que celui annoncé, la différence sexuelle selon la gender theory. Donc, parmi les nombreux défis que présente la théorie du genre, nous en choisissons un pour le traiter un petit peu plus à fond. Ce sera la question de la différence sexuelle. Hier, pour ceux qui étaient présents, nous avons exposé quelques éléments de réflexion sur la différence homme-femme. Ce soir, je vous propose de nous arrêter sur la remise en question de cette différence fondatrice de toute anthropologie depuis des millénaires. Cette remise en question par ce qu'on a appelé la théorie du genre. Alors, je fais ici une distinction entre la théorie du genre et les recherches menées par, en grande partie, des sociologues sur le genre. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de recherches sur l'aspect socialement construit de telle ou telle représentation culturelle, qui sont certainement très légitimes. Mais ici, quand je vais parler de la théorie du genre, je vais utiliser, j'entends par là cette théorie, le genre tel qu'il est érigé en théorie philosophique par certains, qu'on a appelé les radicaux du genre. Selon la sociologue anglaise Anne Oakley, dans son livre « Sex, Gender and Society » de 1972, je cite « Sexe est un mot qui réfère aux différences biologiques entre mâle et femelle. Sexe est un mot qui réfère aux différences biologiques entre mâle et femelle. » Les différences visibles des parties génitales, les différences relatives à la procréation. Gender, par contre, est une question de culture. Il réfère à la classification en masculin et féminin. Je pense qu'avec le temps, cette distinction va s'éclairer. Selon cette pionnière de la gender theory, sexe désigne donc l'aspect strictement biologique et inné de l'individu, tandis que gender désigne son aspect socioculturel acquis. D'accord ? Alors, je propose quatre points de réflexion avant une mini-conclusion. Premier point, je l'ai intitulé « La différence sexuelle et la biologie ». La théorie du genre, donc que je distingue des études de genre, et quel type de distinction. La théorie du genre ne conteste nullement le fait biologique de la différence sexuelle. On a lu parfois certaines personnes qui écrivaient cela, une contestation de la différence sexuelle. Non, il n'y a pas de contestation. Il y a une constatation de ce fait biologique. Ce serait folie. Mais cette théorie du genre se contente de déclarer ce fait sans portée réelle pour la libre construction des diverses identités de genre. Je suis principalement, non pas homme ou femme, mais je suis principalement l'orientation sexuelle que je choisis d'être aujourd'hui, quel que soit mon donné biologique de base. Je suis le rôle que je veux jouer, ou que la société veut que je joue. Mon corps sexué n'a pas vraiment de signification en lui-même. Plus précisément, il ne possède que la signification que je lui confère, ou que la société lui confère. Pour le meilleur et pour le pire. Mon corps n'est que le substrat neutre de mon existence, le siège de mes expériences individuelles. Il est une détermination que l'on reçoit à sa naissance, sans réelle consistance humaine. Je ne suis pas là en train d'exposer ma propre perception. Je suis en train d'exposer ce qui est enseigné par les radicaux du genre. Donc, le corps sexué est une détermination sans réelle consistance humaine initiale que la culture, la politique, la société va venir surdéterminer. Donc, vous voyez, Claire ? D'un côté, vous avez le sexe qui est de l'ordre vraiment biologique, purement biologique. Et d'un autre côté, vous avez le genre qui est d'ordre culturel, purement culturel et spécialement sociologique, aussi psychologique. Toute la question, j'ouvre votre attention à cela, c'est le mot purement biologique, purement culturel. Selon cette perspective constructiviste, la différence sexuelle appartient donc à un ordre purement naturel, au sens biologique du terme, animal du terme. Dans son surgissement archaïque, cette différence sexuelle demeure fondamentalement extérieure à l'altérité entre les humains. Elle se situe au seuil de leur identité profonde et de leur relation. Elle est en quelque sorte préhumaine. Le fait que je sois homme ou femme est considéré comme une donnée préhumaine. La différence sexuelle est ainsi réduite à une différence biologique ou à une superstructure variable. Elle n'apparaît pas comme constitutive de la personne. Dans les diverses dimensions de son être, corps et âme. Nous avons vu hier que la différence sexuelle n'était pas uniquement une donnée biologique. Ça informait l'ensemble de notre identité. Je ne suis pas moi qui, en plus, suis une femme ou un homme, mais je suis moi, homme. Ça fait partie de mon identité. La différence sexuelle, selon la perspective constructiviste du gender, n'est pas saisie dans son enracinement biologique. Elle naît, je cite Fabrice Hadjadj, qui a toujours souvent des formules évocatrices, elle n'est que le reliquat bestial dans notre corps de quelque chose de différent, construit par la culture. Or, si la différence sexuelle demeure en dehors de l'identité profonde des individus, pourquoi donc ne pas permettre à ceux qui le veulent la possibilité de réécrire leur corps, réécrire son corps, mais non pas avec une plume, mais avec un bistouri. Richard Fitzgibbons, excusez-moi la prononciation, Philip Sutton et Dale O'Leary ont mené à ce sujet des études approfondies sur la question de ces personnes qui ont le désir de réécrire leur corps, ou en tout cas de subir une façon poétique de dire, ben voilà, d'aller voir un chirurgien et que le chirurgien les transforme. Ils ont mené une étude d'ordre psychologique et psychiatrique et ils ont constaté ceci. Donc ce n'est pas ici un donné philosophique que je vous partage, mais un donné scientifique, de la science humaine. les hommes et les femmes qui demandent une opération chirurgicale pour changer de sexe ne présentent presque jamais d'anomalie génétique. Je cite, hein. Ont des organes sexuels intacts et présentent des taux d'hormones reproductives propres à leur sexe. L'immense majorité n'a pas de problème d'intersexualité somatique. Leur désir de transformation s'origine principalement dans de grandes souffrances d'ordre psychologique. Et j'ajoute, selon nous également, d'ordre spirituel. Mais ça, ce n'est pas dit par le rapport, hein, qui a été distribué à l'ONU. Et là, ils ont repéré une série de symptômes, dépression, anxiété sévère, masochisme, haine de soi, hypertrophie du narcissisme, abus lors de l'enfance, etc., etc. Voilà les raisons profondes et souvent extrêmement complexes pour lesquelles ces personnes peinent à s'identifier à leur sexe biologique et ont l'impression subjective, parfois très forte, très oppressante, très obsédante, d'être née dans le mauvais corps. Je ne suis pas née dans le corps que j'aurais dû avoir. Une réponse chirurgicale à des souffrances essentiellement psychologiques et humaines, affirment ces auteurs, est donc un choix, je cite, catégoriquement inopportun et médicalement et éthiquement peu judicieux. Fin de citation. Le transsexualisme ne débarrasse pas les individus qui s'y soumettent, je cite, des problèmes relationnels, de travail ou des émotions qu'ils avaient avant leur opération. Bien sûr, tous les théoriciens radicaux du gender ne prônent pas nécessairement, nous le verrons, ces solutions techniques à des drames humains. Mais, la logique de leur discours les entraîne insensiblement dans cette direction. Car affirmer la suprématie absolue de l'identité du gender sur le corps, et réduire donc le corps à un simple substrat neutre, c'est livrer le corps à l'arbitraire du gender. L'identité s'en trouve puissamment perturbée. Mais laissons là ces considérations et poursuivons l'exposition des thèses de la gender theory. Ça va? Vous me suivez jusqu'à présent? Point 2, après avoir exposé les bases de la théorie radicale du gender, qui non seulement distingue sexe et genre, mais les sépare. C'est l'axiome fondateur. Deuxième point, voyons maintenant ce que j'ai intitulé « Vers un monde post-sexuel ». Vers un monde post-sexuel. Les titres ne sont pas des inventions de ma part. Hein. On les trouve dans la littérature consacrée à cet effet. Le corps humain étant déclaré insignifiant d'un point de vue de l'humanité, il n'est donc plus possible de découvrir une quelconque valeur à la différence sexuelle, si c'est du purement biologique. Considéré principalement comme un pur objet, on ne peut plus déchiffrer dans le corps un sens masculin ou un sens féminin. On voit l'aspect femelle ou l'aspect mâle, mais on va dire l'aspect femelle ne correspond pas nécessairement avec le féminin. Et l'aspect mâle ne correspond pas nécessairement avec l'aspect masculin. Ce sont deux registres hétérogènes l'un par rapport à l'autre. Et donc on peut très bien être féminin tout en étant dans un corps de mâle. Vous voyez ? Et vice-versa. Il y a un peu... Je vois certains qui sont un peu désorientés, mais... C'est désorientant comme type de théorie. Hein. Donc, le corps apparaît trop inconsistant d'un point de vue humain pour assumer la responsabilité de l'identité. Cette dernière relève exclusivement des rôles socialement acquis et plus ou moins consciemment adoptés. L'humain, retenez cet axiome, l'humain, c'est son genre. et c'est la dignité de l'être humain que de vaincre les déterminismes biologiques divers, dont nos caractéristiques sexuelles. La gender theory, ça c'est un discernement que je pose, est une forme d'idéalisme de facture sociologique. La différence sexuelle n'a en elle-même aucune réalité spécifiquement humaine, purement naturelle, au sens matérialiste du terme. Elle n'est porteuse d'aucun indice éthique, et encore moins métaphysique. La société doit marcher résolument vers une désexualisation idéologique, c'est-à-dire vers l'anéantissement de toute distinction fondée sur le sexe. Plus radicalement encore, la catégorie philosophique de sexe doit disparaître, ou du moins être vidée de sa substance significative. Ce que je dis là est tout à fait logique par rapport aux prémices que j'ai posées dans le premier point. L'objectif final est une société post-sexuelle ou asexuelle, c'est-à-dire une société où les sexes seront totalement constitués par les genders. Cela ne veut pas dire que les différences biologiques inscrites dans les corps ne doivent plus être prises en compte, bien sûr. Mais, dira-t-on, à leur juste place. D'où la possibilité que nous venons d'évoquer pour ceux qui le décideraient de procéder à une série d'opérations de transformation biologique. Toutefois, cette possibilité n'est nullement une nécessité. On n'est pas obligé de réécrire son corps. Pourquoi ? Raisonnons par l'absurde. Si c'était le cas, si le gender ne pouvait faire autrement que de changer le corps dont il est affecté, ce serait paradoxalement encore reconnaître au corps une certaine signification, à savoir une réalité qui exige sa modification. Non, les sexes, qu'ils soient opérés ou non, sont et demeurent neutres. En ce sens, en toute rigueur de terme, on ne peut pas dire que la gender theory promeuve un modèle unisexué ou androgynique. Non, elle encourage toutes les sexualités possibles et imaginables, à condition que celles-ci soient les expressions de gender volontairement construits. L'idéal, affirment certains, ce serait un corps artificiel ou cybernétique, librement programmable et reprogrammable. Alors vous allez me dire, oh là, vous envolez, hein, c'est gentil, mais bon, hein, on est dans la science-fiction. Hein. Avec les progrès extraordinaires de la biotechnologie, cette perspective qui relevait il y a peu des mythes, et vous avez raison, de la science-fiction, devient partiellement envisageable. Certaines questions posées par la neuroéthique, et par l'éthique par exemple des greffes d'organes, appartiennent déjà à cet univers. Donc, voilà, ne pensons plus, en tout cas au niveau de la réflexion, que c'est de l'ordre du purement fantasmatique. Il y a des auteurs très sérieux qui réfléchissent à cela. J'ai lu récemment une partie d'un livre de Michel Onfray sur notamment sa conception des greffes d'organes. C'est intéressant. C'est vraiment... on avance vers cette conception du corps comme étant un pur objet que je peux programmer, reprogrammer selon mon projet. Non pas parental, mais autoparental. Le symbole le plus parlant de cette nouvelle anthropologie, entre guillemets anthropologie, mais enfin appelons-la comme ça quand même, est le travesti, qui revêt son corps de déguisement genré. Le travesti est davantage libéré des contraintes naturelles de la différence sexuelle que le transsexuel. Comprenez pourquoi, hein, que ce transsexuel soit préopéré, postopéré ou non-opéré, ou que l'hermaphrodite. Ces performances, je parle du travesti, expriment mieux que n'importe quel autre gender, que n'importe quelle autre performance, celle du gender polymorphe, pluraliste, subjectif, à la carte, sans limite, indéfinie, constituant ses orientations sexuelles au gré de sa fantaisie. Donc, on n'en est plus à dire qu'on a le droit de choisir son orientation sexuelle. On en est à dire qu'on a le droit de choisir ses orientations sexuelles au fur et à mesure de l'existence. Pourquoi biologiser la liberté? Pourquoi enfermer la liberté dans un choix? Le travesti est donc proclamé héros des temps postmodernes, prophète éclairé, annonciateur d'un univers nouveau. Par ses jeux de rôle, il met en crise non seulement les illusions différentialistes, qui confèrent indûment une signification à la différence sexuelle. Donc, pour ceux qui étaient là, hier, vous avez eu une position, la position que je vous ai présentée serait certainement taxée de différentialiste, c'est-à-dire qui donne du poids ontologique, anthropologique, à la réalité biologique de la différence sexuée et sexuelle. Donc, je fais partie des différentialistes, d'accord ? Eh bien, le travesti vient me dire non, ce que vous faites n'est pas juste. Donc, remet en question les théories que je propose, mais également remet en question son critique par rapport aux conceptions d'un gender qui serait trop figé, univoque, réifiante, fixiste, catégorique. L'agir du travesti apporte une salutaire subversion, y compris au sein des théories du gender qui seraient contaminées par les virus essentialistes ou différentialistes. L'univers humain, je trouve que c'est une comparaison qui, personnellement, que j'ai élaborée et qui me semble très, très éclairante, pourrait dire que pour les radicaux du gender, tous les tenants du gender ne vont pas jusque-là, mais en tout cas ont des prémices, ont des postulats qui, si on les pousse jusqu'à bout, arrivent à la conclusion, à la comparaison que je vais vous donner. Mais on pourrait imaginer que l'univers est une gigantesque pièce de théâtre où se joue un nombre indéfini de scénettes qui se croisent et s'entrecroisent dans une libre improvisation à la fois comique et tragique, tragico-comique, ou comico-tragique. Durant la représentation, chaque acteur n'existe pas pour lui-même, et en lui-même. Quand vous avez un acteur de théâtre, Gérard Depardieu, il va réciter, il joue un commissaire de police, pendant la pièce, il est vraiment le commissaire de police, et puis après, quand il rentre chez lui, il n'est plus le commissaire de police, il redevient Gérard Depardieu. Ceci étant dit, il a joué tellement drôle que parfois il s'y perd un peu dans toutes ces identités qu'il a endossées. Mais enfin, il a une identité avec un prénom qui s'appelle Gérard, d'accord ? Bon. Eh bien, pour la gender theory poussée dans sa logique, il n'y a pas de Gérard Depardieu. L'acteur est celui qu'il est au moment où il joue ce qu'il est. Il existe uniquement comme rôle. Donc, il n'y a pas de Gérard, il n'y a qu'un commissaire de police qui s'appelle, Dominique ou, Thierry, enfin, peu importe. Vous voyez ? Donc, on est le rôle que l'on joue. Le rôle que l'on s'assigne à soi-même ou que la société nous assigne. Ainsi, dans notre monde, des sujets sans consistance ontologique font exister et disparaître leurs personnages. Et puis, il y a même des études psychologiques pour voir comment, selon le mécanisme de la répétition, on devient ce qu'on joue. Vous voyez ? Comment ça s'ancre dans le psychisme. À travers l'existence donc fugace de multiples genders. Mais, à la différence de la pièce de théâtre, il n'y a ni les trois coups pour marquer le début de la représentation, ni les applaudissements lorsque le rideau se baisse. Le jeu des genders n'a ni commencement ni fin, il est continuel. Tout est représentation au sens actif du terme. Tout est l'acte même de représenter. Tout est performation. Je suis la performance que je joue. Il n'y a personne derrière les personnages. Il n'y a personne derrière le personnage. Gérard Depardieu n'existe pas. Vous allez me dire, oui, mais alors, comment on dit ? Ben, il y a un agrégat de personnages qu'il joue. Tout est théâtre, ou plus précisément, tout est jeu théâtral. Le gender, quand on, plus on y réfléchit, ça c'est une, pour moi c'est une clé de lecture très forte, c'est un concept dynamique, actif, pas un concept ontologique, si vous voulez. C'est de l'ordre de l'action, de la performation, pour être plus précis. Sans doute actuellement, en 2012, un nombre restreint de genders sont socialement acceptés. Le gender homo, le gender hétéro, le gender lesbien, le gender bi, le gender trans, enfin, il y en a qui disent qu'il y a 6 genres, d'autres qui disent qu'il y en a 7, d'autres qui disent qu'il y en a 8, d'autres qui disent qu'il y en a 15, d'autres qui disent qu'il y en a 5, peu importe. Hein, vous voyez ? Il y a un nombre socialement accepté et reconnu. Mais, dans un avenir pas trop lointain, chaque citoyen devrait pouvoir imaginer et décider son propre gender, son style de vie, ses préférences, son orientation sexuelle, ainsi que sa configuration familiale en totale liberté. Chaque citoyen est égal et devrait pouvoir créer et exercer ses propres genders au-delà des contraintes physiologiques de la différence sexuelle. L'école est chargée de véhiculer ce message dès les classes primaires. Prenez un livre de... je lisais un petit livre de la communauté néerlandaise, là. Apprenant le néerlandais, je travaille... On commence à familiariser. Puisque les enfants qui naissent dans des familles hétérosexuelles sont désavantagés par rapport aux autres. Puisque dans les familles hétérosexuelles, il y a une coïncidence entre le masculin et le mâle, et le féminin et le femelle. Et donc, ils risquent d'être dans la confusion. Et donc, ils sont désavantagés. Il faut être spécialement attentif pour éviter toute discrimination. J'exagère peut-être un petit peu, mais pas vraiment. D'accord ? C'est vraiment la logique, si vous voulez. C'est vraiment la logique. Le pouvoir politique est tenu de protéger, de garantir et promouvoir activement les conditions effectives qui permettent ce jeu des libertés individuelles. Telle est sa raison d'être dans une démocratie moderne fondée sur les droits égaux de l'individu roi et souverain. Disons de l'individu simplement souverain. Il lui revient de défendre les individus contre toute discrimination, à commencer par celle basée sur la différence sexuelle. L'humain a le droit, et même le devoir en tant qu'humain, d'inventer son gender comme il l'entend, et de le faire évoluer au cours de sa vie. Ces considérations, comme nous avons déjà pu nous en rendre compte, ne sont pas confinées au seul domaine de la théorie. Elles sont effectivement mises en œuvre au niveau politique et juridique. C'est l'anthropologie qui règne à l'ONU, en grande partie, et au Parlement européen. Récemment, j'ai été rencontré de personnes chargées par leur parti de toutes les questions du gender. Et ces deux personnes me disaient que chaque fois qu'on alloue un budget en Belgique, pour n'importe quelle chose, pour des feux de la signalisation routière, il y a toujours une étude sur de gender budgeting, comme ils disaient, donc d'incidence sur le gender. Elle possède des applications concrètes dans la vie de tous les jours. Voici deux exemples assez médiatisés, il est vrai, choisis dans le domaine de l'éducation. Je prends deux exemples. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'ils ont été très médiatisés. Je vais vous parler tout d'abord d'un petit humain qui s'appelle Storm. Tempête en anglais. C'est le prénom d'un free baby. Élevé à Toronto, cet enfant ignore s'il est un garçon ou s'il est une fille. Ses parents refusent soigneusement de lui révéler sa masculinité. C'est un mâle, mais il n'est pas pour autant masculin, selon ses parents. Il doit être libre, je cite les parents, de choisir son genre plus tard. Quand vivrons-nous dans un monde où les personnes pourront choisir qui elles ont envie d'être? Bien entendu, tous les théoriciens du gender qui sont parents n'éduquent pas leur progéniture de cette manière-là. Et les deux personnes que j'ai rencontrées, évidemment, n'éduquaient pas du tout leur enfant dans cette perspective-là. Ils pourraient objecter à ses parents de Toronto: le gender n'est pas seulement une construction individuelle, mais également sociale, où la parentalité doit exercer ses multiples fonctions. Vous devez aider votre enfant à construire son propre gender dès à présent. Voilà la réaction que pourraient avoir des théoriciens du gender à ce type de position. N'empêche, il y a quelque chose de redoutablement cohérent dans cet abandon de toute différence sexuelle au profit exclusif d'un autopositionnement futur et tout-puissant du gender par lui-même. C'est d'ailleurs intéressant, entre parenthèses, hein, quand on réfléchit à ces questions-là, de penser toujours d'un côté à l'enfant et de la personne âgée. En général, ce genre de théorie fonctionne très bien, à une application plus immédiatement, jouable pour un certain type de catégorie d'âge. Mais il y a un moment où ça devient... Selon une logique analogue, Egalia, une école maternelle financée par le contribuable suédois, a ouvert ses portes en septembre 2010. Je me demande si elle ne les a pas fermées depuis lors. Mais l'important, l'intérêt, c'est de voir que ça a été financé par l'État. Tout dans cet établissement est pensé pour éviter la différenciation sexuelle. Cendrillon ou Blanche-Neige étant trop marqués par des stéréotypes hétérosexuels, les enfants de 1 à 6 ans écoutent l'histoire de deux girafes de même sexe adoptant un œuf de crocodile. Les pronoms « il » et « elle » sont bannis d'un langage qui s'efforce d'instaurer un régime de stricte neutralité. Comment, dans de telles conditions, accueillir, découvrir, construire et développer son identité pour un tout petit? Alors, si c'est une critique plutôt d'ordre psychologique que je vous propose. En brouillant des repères identificatoires et symboliques aussi fondamentaux, n'injecte-t-on pas chez les tout petits une angoissante confusion qui retarde et handicape le rapport aux autres, à eux-mêmes et à Dieu? Ne les plonge-t-on pas dans une inquiétude tempête, dans une sorte de Babel intérieur? C'est très intéressant de voir, si, quand vous jouez avec des enfants, si vous traitez un petit garçon tout petit, hein, par exemple si vous changez son nom, hein, vous lui dites bonjour Sophie alors qu'elle s'appelle Émilie, son identité est trop fragile pour, à un certain âge, pour supporter qu'on l'appelle Sophie alors qu'elle s'appelle Émilie. Elle va réagir, hein, et elle déteste ça, vraiment. Imaginez que vous fassiez la même chose, mais en changeant de sexe, voyez. Donc, il y a là vraiment une... Pourquoi ? Parce qu'elle est en train d'élaborer son identité. Elle a besoin de repères identificatoires. Ne les contraint-on pas à un effort prométhéen pour chercher par eux-mêmes, dans un univers qui leur est rendu volontairement opaque, des repères de substitution ? Les deux girafes et l'œuf de crocodile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je suis un petit crocodile et que mes parents sont des girafes ? Enfin, je ne sais pas... Comment leur moi pourra-t-il se structurer dans un tel réseau symbolique? La même question doit être posée en ce qui concerne les adolescents. Comment ceux-ci pourront-ils élaborer leur personnalité d'homme ou de femme si on brouille ces repères de base? Naître avec une identité sexuelle est un formidable cadeau, écrit Mgr Dornelas, à recevoir avec joie, parfois avec larmes, enfin, ouais, avec joie aussi. Les adultes ont la mission de montrer aux jeunes qu'il s'agit d'un cadeau pour que chacun s'épanouisse en vérité et en liberté, en devenant ce qu'il est, homme ou femme, sans avoir peur de sa sexualité ni de l'altérité sexuelle, sans devenir violent. Fin de citation. Comment donc construire son identité? Je préfère parler du mot élaborer, c'est un terme qui est plus juste d'un point de vue psychologique, en dehors de la reconnaissance de la différence sexuelle et donc de la reconnaissance de l'autre. De ce point de vue-là, je pense que il faut écouter les pédagogues. Il serait précieux d'interroger davantage les psychologues à ce sujet. Le sujet post-moderne, surfant sur la vague d'une pure diversité égalitariste, ne végète-t-il pas dans les couches archaïques et indéterminées de son être? Qu'est-ce que ça veut dire de refuser d'accéder à la différence sexuelle au niveau psychologique? Bon, il y a plusieurs théories évidemment, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne suis pas psychologue, il y en a sans doute parmi vous qui le sont, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne peine-t-il pas à élaborer son surmoi, pour reprendre le langage aujourd'hui contesté par certains, de la psychanalyse freudienne? Judith Butler, qui est une des grandes promotrices de la théorie radicale du gender, essaye de démonter Freud, parce que, évidemment, tout l'accès à la construction de la personnalité chez Freud se base sur la différenciation, hein, le petit garçon, son père, sa mère, etc. Complexe d'Oedipe. Donc si ces repères identificatoires de base sont brouillés, ne risque-t-on pas, pour l'enfant et pour l'adolescent, de l'enfermer dans un narcissisme primaire relatif aux stades les moins évolués de sa personnalité? C'est intéressant, il y a une psychiatre qui me disait que dans son cabinet, aujourd'hui, elle avait beaucoup plus de personnes qui souffraient de problèmes de narcissisme des couches primaires que personnes qui souffraient de la névrose ou de névrose multiple. Parce que pour souffrir de névrose, il faut déjà avoir une certaine élaboration relationnelle. Dans quelle mesure ceux qui ont élaboré une telle théorie ne sont-ils pas restés prisonniers eux-mêmes du désir de toute puissance pré-eudepienne? Il y aurait une psychanalyse à faire détenant de cette... Voilà, c'est pas mon rôle. Quelle place reconnaissent-ils en eux-mêmes, à l'autre, comme autre? Au père en particulier. Le sujet post-moderne aura-t-il l'opportunité de développer une réelle intériorité? Freud ne situe-t-il pas l'expérience de la sexuation par différenciation au fondement même de la subjectivité de la relation? Lacan également, d'une autre manière, à travers l'élaboration du langage et des symboles. Notons, comme je vous disais tout à l'heure, que certains radicaux du gender critiquent fortement la psychanalyse qui manipulerait le sujet au moyen de thérapies différentialistes hétérosexuées. Toute une réinterprétation, une relecture par certaines études gender de la psychanalyse. De fait, constate Jacques Arène, le monde psychanalytique est aujourd'hui divisé, notamment avec la contestation, peu importe, de l'école de Chicago contre Freud. Quel rapport au réel cette théorie de l'indécidabilité des sexes engendre-t-elle? Je redis, quel rapport au réel cette théorie de l'indécidabilité, j'y arriverai, des sexes engendre-t-elle? La différence des sexes et la différence des générations sont les deux rocs de la réalité, observe Jeannine Chasseguet-Smirgal. Ces différences, reconnaît de son côté Marie Balmary, constituent l'abscisse et l'ordonnée de chaque être humain, les deux données fondamentales qui ne peuvent être brouillées sans que s'ensuive une désorganisation de l'être humain tout entier. Quel serait l'avenir d'une société qui nierait une de ces deux données en promouvant l'idéologie du gender radical? À quelle nouvelle forme de violence, enracinée dans des personnalités chaotiques, devrait-elle faire face? Pourquoi et comment ces théories ont-elles un tel impact dans la culture contemporaine. Voilà. Donc, une première étape, je vous ai posé l'axiome fondateur, la différence entre gender et sexe, hein, qui n'est pas simplement une distinction, mais une séparation dans le gender radical. Le deuxième point, je vous ai présenté la suite, la logique de cet axiome poussé à son extrême, et qui n'est pas suivi par tous les tenants du gender. Le troisième point, à proposer une application concrète dans deux applications concrètes dans le domaine de l'éducation avec un questionnement d'ordre psychologique. Voyons maintenant pour terminer, quatrième point, la question de la relation selon le gender, la théorie du gender. Face à ce que nous venons de dire, les radicaux du gender pourraient rétorquer. Vous dites que nous sommes dans une anthropologie individualiste qui n'accorde aucune place à la relation. Faux, archi-faux. Nous accordons une place bien plus décisive que vous ne le pensez à l'autre, au différent, à la relation et à la sexualité. Vous nous faites un procès d'intention. La preuve, vous voulez la preuve la plus tangible? Eh bien, simplement, nous définissons les genders comme des modes. C'est quoi un gender finalement? C'est un mode de relation sociale et plus précisément de relation sexuelle. L'identité de gender telle que nous la promouvons dans sa libre et incessante construction d'elle-même est essentiellement, entre guillemets, relationnelle. Le rapport à l'autre sous cet aspect est constitutif du gender, diront-ils. Gène désigne un mode de rapport à son semblable. Voilà comment le type d'objection. Je ne l'ai pas lu, c'est moi-même qui me suis fait cette objection-là, d'accord? Alors, accueillons cette objection en face. D'accord? Mais ne s'agit-il pas plutôt d'un mode de rapport au semblable en son corps? Ou plus précisément, au corps de son semblable. Est-ce que le gender parle de relation? Sans doute, il faudrait bien voir ce qu'on entend par relation, mais est-ce que c'est vraiment une relation à l'autre? Ou bien c'est une relation au corps de l'autre et au corps objet? Puisque le corps n'a aucune subjectivité, si on peut parler ainsi. Pas au corps sujet. Et de quel type de relation s'agit-il? Une phénoménologie des pratiques sexuelles, c'est-à-dire des modes de relation spécifiant les différents genders, serait révélatrice à ce propos. À première vue, cette description des identités de genre à partir des relations charnelles, ou plus précisément à partir des comportements sexuels, paraît très étonnant. Je ne sais pas. Faut un peu se représenter les choses. Je sais pas, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous dites pas bonjour, je suis hétéro. Bonjour, je suis bi. Bonjour, je suis homo. Bonjour, je suis. Hein? Ça accordé une place extraordinairement importante à un comportement sexuel. Comprenez? Hein? C'est étonnant, enfin, je vous invite à vous étonner de cela. D'un côté, on a une déconsidération totale de la sexualité, en disant c'est de l'infra-humain, du pré-humain, et d'un autre côté, on va définir son identité à partir du comportement sexuel, en donnant une place qui est gigantesque. Le corps et la sexualité ne sont-ils pas considérés dans cette théorie comme fondamentalement insignifiants? Alors pourquoi tellement d'importance tout d'un coup? Au nom de quels principes ces réalités considérées comme purement biologiques, sont-elles soudain chargées d'un tel poids? On aurait pu imaginer sans peine d'autres facteurs sociaux, culturels, comme matériaux de base à la construction et à la présentation des genders. Pourquoi pas un autre élément? Pourquoi avoir choisi la préférence sexuelle ou le style sexuel de vie pour tracer les silhouettes changeantes des identités de gender? Je vous invite à réfléchir par vous-même à cette question. Paradoxalement, la sexualité est d'un côté totalement dévalorisée et d'un autre totalement survalorisée. Comment comprendre cette apparente contradiction? Selon la théorie du genre, comme nous l'avons vu, je le répète encore une fois, le corps humain et la sexualité qui lui est infligée offrent donc un substrat ontique purement matériel à l'autopositionnement des individus. Il revient à la liberté de façonner ce substrat à sa guise, de l'orienter selon son pouvoir, de l'employer selon son bon plaisir. Il y a un rapport instrumental au corps. C'est donc la puissance de la volonté individuelle et ou, ça dépend des théories, de la volonté collective qui fait et qui défait les identités qu'on dit liquides. Peu importe, vous oubliez le mot liquide, mais ça vient souvent, les identités liquides. C'est-à-dire qu'ils n'ont... C'est pour lutter contre l'identité qui serait trop de pierre, trop ontologisante. À l'heure des désillusions des grandes idéologies, cette toute-puissance s'exerce, s'éprouve et trouve sa justification principalement sur les corps objectivisés. Voilà au moins une réalité que je puis dominer comme je l'entends. Je peux en faire ce que je veux, en jouir sans entrave. Pour reprendre une maxime de mai 68. La différence sexuelle elle-même n'est qu'une contrainte naturaliste surmontable. De cette manière, la révolution du gender s'inscrit dans le prolongement des grandes révolutions idéologiques du XXe siècle, et plus particulièrement de la révolution sexuelle enclenchée dans les années 60, avec sa critique virulente des tabous et des interdits. Elle apparaît comme une forme nouvelle de cette utopie, ou peut-être, il y a des discussions à ce sujet-là, comme son ultime refuge. Ce n'est donc pas la sexualité comme telle qui est survalorisée, c'est le point qu'il faut bien percevoir, ce n'est pas la sexualité comme telle qui est survalorisée, mais le sujet qui déploie sa toute-puissance sur son corps-objet et sur celui des autres, dans la mesure où ceux-ci sont d'accord. À propos en parler, il n'y a pas de langage des corps. C'est une expression de Jean-Paul II. Parler de langage des corps, pour la gender théorie, c'est un non-sens. Il n'y a pas de langage ou de grammaire des corps. Tout est possible, tout est neutre, tout est égal. En elle-même, la sexualité dans sa dimension corporelle possède uniquement le sens que leur confèrent librement les individus en interaction. Elle n'a pas de vérité intrinsèque. Les sexes sont susceptibles de s'adapter indéfiniment au genre et à ses performativités créatrices. Très logiquement, toutes les pratiques sexuelles sont déclarées légitimes et équivalentes d'un point de vue éthique. Il faut voir ce qu'on entend par éthique, mais enfin voilà. À condition que la liberté du ou des partenaires soit respectée. Et le tabou de la violence. Le nouveau nom du mal, qui est intéressant pour réfléchir, c'est la question de la violence. Une façon de... Toutes les pratiques sexuelles sont possibles car elles demeurent invinciblement au seuil des identités auxquelles elles confèrent paradoxalement leur nom. Elles n'engagent pas véritablement les individus qui s'y adonnent. Elles ne sont que l'expression de la toute-puissance de leur volonté ou de leur volonté de toute-puissance. Les revendications à la fois dionysiaques et prométhéennes du marquis de Sade trouvent ici un regain étonnant d'actualité. C'est le même type de, de réflexion, de pensée. Très logiquement, toutes les pratiques sexuelles sont donc déclarées légitimes. Dans la réalité, nous assistons à un redoutable conflit entre les forces de la liberté et celles des pulsions sexuelles, une lutte entre l'ange et la bête. Qui domine qui? C'est la question. Qui domine qui? La liberté, sociale et individuelle, qui s'imagine et se veut totalement constitutive d'elle-même? Sans doute, du moins à certains moments. Le corps et ses besoins impérieux? Sans doute aussi, du moins à certains moments. Il y a une sorte de dialectique qui prend le contrôle. Depuis une vingtaine d'années, observait Boris Cyrulnik en 1995, on voit aux États-Unis des gens qui se considèrent comme sexuellement dépendants et qui viennent demander aux médecins de les aider à se débarrasser de ce qu'ils regardent comme une aliénation, voire comme une sorte de toxicomanie. Leur idée principale est que la suppression du désir sexuel représente un gain de liberté individuelle. Ce phénomène commence à se manifester en France, écrivait-il en 1995. Et il a fait évidemment son chemin depuis lors, même en Belgique. L'anthropologie générée par la théorie du genre est à proprement parler non humaine. Elle offre une juxtaposition de l'angélique, ou du diabolique, et du bestial. Elle considère l'humain comme une association de deux éléments hétérogènes, l'un étant exalté au point de l'absolutiser, l'autre étant vidé de sa richesse humaine au point de le dissoudre purement et simplement. Aussi, tantôt l'ange et la bête s'affrontent tragiquement, tantôt ils s'ignorent superbement, tantôt l'un asservit totalement l'autre. La gender theory se nourrit d'une dialectique d'opposition entre un idéalisme socioculturel de l'identité construite et un matérialisme assez cru de la chair. Qui fait l'ange, fait la bête, avait déjà remarqué Pascal. La théorie du genre oscille continuellement entre l'emballement jusqu'à l'absurde d'une liberté sans prise de terre et les déterminismes monotones de la chair. Une telle anthropologie est en sa racine non chaste et rend impossible de penser la chasteté au sens antique et chrétien de ce terme. Je cite ici la description qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2337. La chasteté signifie l'intégration réussie, l'intégration, le mot important c'est intégration, l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique devient personnelle et vraiment humaine, poursuit le catéchisme, lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme. Fin de citation. L'anthropologie gender se révèle étrangère, par définition, avec son axiomatique de base, à une telle intégration. Elle la déclare a priori impossible et insensée. Et l'extinction du désir n'est pas une attitude chaste en elle-même. Lorsque la liberté veut dominer totalement la sexualité. Conclusion. Alors, vous voyez, on a vu beaucoup d'univers. Rapide conclusion. La différence sexuelle, au sens classique de l'expression, est cantonnée par les théoriciens du gène de radical dans le pur biologique. Elle n'a pas l'épaisseur spécifiquement humaine que nous lui avons reconnue dans l'exposé de hier. Elle n'est pas, la différence sexuelle, infiniment mystérieuse. Mystérieuse non pas au sens de quelque chose dans lequel on ne pourrait pas entrer, mais qui nous constitue et qui est constitutif de l'être humain et qui est, de ce point de vue-là, d'une profondeur abyssale. Donc, la différence sexuelle n'est pas, selon les théoriciens du gender, infiniment mystérieuse, mais seulement problématique, réduite, pour reprendre l'exposé de hier, à sa finitude matérielle. les radicaux du gender sont radicalement incapables de réfléchir la différence homme-femme en sa profondeur. Ils préfèrent d'ailleurs parler, soyez attentifs, non pas de différence, mais de diversité. De diversité. Expression qui évoque l'idée de tourner, de changer de direction, divertere en latin. Divertere en latin. Comme le remarque Angelo Scola, ce concept se réfère moins à l'intimité profonde de l'être. La diversité est plus léger, un concept plus léger, plus artificiel, moins ontologique, plus extérieur, plus girouette, si vous voulez, si vous me permettez ce... Différence, par contre, connote l'idée de porter d'une manière, d'une autre manière, une même réalité. Différer, différer, porter une même réalité d'une même manière. Elle désigne un rapport d'altérité entre des éléments, entre des choses qui ont des éléments identiques. Voilà, je vous remercie.